Il fut un temps où les secrets d'État exigeaient des coffres-forts en acier massif, des sentinelles armées jusqu'aux dents et des valises diplomatiques, enfin le truc classique, menottées au poignet.
Ouais, la guerre froide, l'espionnage à l'ancienne, quoi.
Exactement. Mais aujourd'hui, on vit une époque, c'est vertigineux, on est dans la transparence involontaire.
C'est le mot. Le secret le plus dévastateur, il se dissimule en pleine lumière maintenant.
C'est dingue. Un simple pixel, genre une minuscule constellation de couleurs égarée dans le fond d'une image, c'est devenu une arme géopolitique, un truc capable de paralyser un pays entier.
En fait, c'est un basculement complet de la notion même de renseignement. L'espionnage, c'est plus du tout s'infiltrer dans l'ombre.
Ouais, c'est savoir regarder ce qui est surexposé.
Voilà. La donnée brute, elle est là. Elle est offerte à tous et elle attend juste que quelqu'un sache relier les points, en fait.
Et c'est cette mécanique fascinante que nous allons explorer en profondeur aujourd'hui. Notre point d'appui pour comprendre cette guerre invisible, c'est le fanzine Pixel Zéro, l'art de la guerre invisible de Mohamed Haït Belhassen.
Publié en mars 2026, ouais.
C'est ça. Mais l'ambition va plus loin. On va croiser ces observations avec une initiative culturelle assez surprenante, lancée par l'ODG Média, la création d'un fanzine collaboratif sur papier.
Sur papier, ouais, c'est un vrai retour aux sources.
Totalement. On va voir comment la technologie façonne la géopolitique, mais aussi notre besoin viscéral de réalité. Comment des photos censées projeter la puissance ont carrément changé le cours de l'histoire militaire et technologique.
C'est tout le paradoxe de l'image moderne, oui.
Bon, décortiquons un peu tout ça, et le meilleur point de départ, c'est incontestablement l'année 2008.
Ah, 2008, le cas d'école.
Le plus grand cas de l'arroseur arrosé de l'histoire moderne, on peut le dire.
C'est clair. L'histoire, du coup, elle nous emmène en Iran, dans les installations souterraines de Natanz.
L'usine d'enrichissement d'uranium.
Exactement. Le président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, effectue une visite officielle de cette usine. C'est un exercice de communication millimétré, hein. L'objectif, il est purement politique.
Il s'agissait de braver la communauté internationale, c'est ça, hein?
C'est ça. Afficher un sourire triomphant au milieu de dizaines d'ingénieurs en blouse blanche et prouver par l'image que le pays maîtrise la technologie nucléaire.
Et les agences de presse mondiales, elles diffusent ces clichés en pensant relayer, ben, un simple message de propagande.
Sauf que...
Sauf que cette séance photo, elle s'est transformée en l'équivalent d'une vidéo unboxing accidentelle.
C'est exactement ça, le unboxing de leur programme le plus secret.
Pour un analyste, c'est une mine d'or. Sur ces clichés officiels, les spécialistes n'ont même pas regardé le président.
Ah non, ils ont regardé l'arrière-plan. Ils ont carrément compté les centrifugeuses. Des cascades exactes de 164 machines.
Et avec des règles de géométrie de base, genre en prenant la taille d'une main ou d'une rambarde comme échelle, ils ont calculé le diamètre exact des cylindres.
Tout à fait. Ce qui a permis d'identifier formellement le modèle. Des IR-1, basés sur des plans pakistanais. Mais la faille la plus critique, en fait, elle était sur les écrans d'ordinateur.
Dans la salle de contrôle.
Ouais. En zoomant sur ces moniteurs en arrière-plan, les services occidentaux ont pu identifier l'interface graphique. C'était le système de contrôle industriel SCADA.
Le système de Siemens.
Voilà, de la marque allemande Siemens. Et il faut bien mesurer l'impact de ça. Le programme nucléaire iranien, qui avait été révélé en 2002, c'était un casse-tête stratégique absolu.
Parce qu'une frappe militaire classique, c'était trop risqué.
Bien trop risqué. Taper sur des installations enfouies sous la roche serait provoquer un embrasement régional, avec des conséquences incalculables.
Donc là où l'espionnage traditionnel sur le terrain se cassait les dents, là où la force militaire était jugée trop dangereuse, une simple agence de relations publiques vient de fournir sur un plateau d'argent la topographie exacte de la cible.
La topographie, le matériel et le logiciel de contrôle, tout y était. Une photo de propagande a remplacé des années d'espionnage à haut risque. C'était la carte d'état-major parfaite pour concevoir une riposte d'un genre, ben, totalement inédit.
C'est ouf! Et ce niveau d'extraction de données à partir de sources publiques, ça porte un nom, l'OSINT.
Ouais, Open Source Intelligence, le renseignement d'origine source ouverte.
Et la révolution là-dedans, c'est que la capacité d'ouvrir grand les yeux, ben c'est plus le monopole des États.
Pas du tout. Historiquement, analyser des sources ouvertes, genre écouter les fréquences radio ennemies, ça a toujours existé.
Bien sûr.
Mais ce qui a fait exploser le truc, c'est la convergence d'Internet, la multiplication des données par les utilisateurs et l'accès aux images satellites commerciaux.
La haute résolution avec des boîtes comme Planet Labs ou Maxar.
Voilà. Ce qui nécessitait avant un satellite militaire à plusieurs milliards de dollars, aujourd'hui, c'est accessible avec une carte bancaire.
Et la boîte à outils des analystes OSINT, elle est dingue. Prenons la géolocalisation par exemple.
Il ne se contente pas de regarder un paysage, hein. Il superpose des vidéos amateurs avec Google Earth, il calcule l'angle des ombres.
Pour avoir l'heure exacte.
À la minute près, il regarde la météo historique pour confirmer les nuages. Et on peut aussi parler des signaux AIS.
Le truc anti-collision des bateaux.
C'est ça, obligatoire pour les navires marchands de plus de 300 tonnes. Du coup, ça permet de traquer les flux d'armes ou de pétrole sous embargo en temps réel.
C'est fou. Et n'oublions pas les métadonnées EXIF.
Ah, les mouchards.
Ouais, ces petits codes invisibles enfouis dans nos photos numériques qui balancent les coordonnées GPS exactes au moment de la capture.
Le travail du collectif Bellingcat, fondé par Elliot Higgins, c'est l'illustration parfaite de ça. Ce sont pas des espions de métier, ce sont juste des citoyens méthodiques.
Quand il a fallu enquêter sur le crash du vol MH17 en Ukraine en 2014, ils n'ont envoyé personne sur place.
Non, ils ont aspiré des centaines de vidéos de dashcam russes et de photos sur les réseaux sociaux.
Et en croisant toutes ces bribes, ils ont retracé le trajet du lanceur de missiles Buk russe, kilomètre par kilomètre.
Depuis sa base jusqu'au champ de tir. C'est hallucinant. Et ils ont fait pareil pour démasquer l'équipe du FSB, responsable de l'empoisonnement d'Alexei Navalny.
Juste en épluchant des registres de vol et des bases de données téléphoniques ayant fuité.
Ouais, sur le marché noir des données.
C'est vraiment une immense partie de « Où est Charlie ?», mais joué à l'échelle planétaire avec des conséquences mortelles. Mais du coup, ça soulève un paradoxe troublant.
Lequel ?
Quand on lit que l'application de course à pied Strava a permis de cartographier l'intérieur de bases militaires secrètes en Syrie...
Ah oui, juste parce que les soldats faisaient leur jogging avec des montres connectées.
C'est ça. On a envie de dire, attendez, les armées n'ont pas des protocoles contre ça ? Une simple erreur d'inattention, ça fait s'effondrer la sécurité d'un État ?
Bah, la réalité, c'est que les armées ont toujours un temps de retard sur la technologie civile. Le volume de données émises par un individu, c'est tellement énorme que c'est impossible de tout verrouiller en temps réel.
On est tous devenus des capteurs passifs, en fait.
Totalement. Chaque image, chaque itinéraire, ça contribue à modéliser le monde réel en 3D. Et ce qui donne le vertige, c'est quand cette observation passive se transforme en outil de ciblage.
Du ciblage cinétique de la destruction physique. Et c'est là qu'on reconnecte notre première histoire à cette observation géante. L'aboutissement des photos de Natanz, c'est la naissance de Stuxnet en 2010.
Le premier missile numérique ?
Voici où cela devient vraiment intéressant.
C'est clair. Stuxnet, c'est le fruit de l'opération Olympic Games, menée par les États-Unis et Israël. C'est un virus d'une complexité jamais vue.
Forgé spécifiquement à partir des infos extraites de la séance photo. D'un point de vue technique, je suis fasciné. C'est de l'orfèvrerie. Le fichier pesait genre 500 kilooctets.
Tout petit. Mais il exploitait 4 failles 0D simultanées.
4.
Ouais. Brûler 4 vulnérabilités logicielles majeures, totalement inédites, juste pour une attaque, c'est un investissement colossal.
La signature claire d'un État. Mais j'ai une question. Natanz, c'était ce qu'on appelle un réseau air-gapped, non ?
Exactement. Physiquement coupé d'Internet. Aucun câble ne reliait ces machines à l'extérieur.
Du coup, comment un code franchit un mur de béton et de vide numérique ?
Par le maillon le plus faible, l'UMA. Le code a été introduit par des clés USB infectées.
Ah, bien sûr.
Ils ont ciblé 4 sociétés sous-traitantes iraniennes qui bossaient sur le site. Les ingénieurs ont transporté l'arme dans leur poche, sans le savoir. Ils ont passé la sécurité physique, branché l'équipement, et voilà.
L'infiltration était totale. Mais le virus n'a pas tout détruit à l'aveugle, si ?
Non, le ciblage était ultra-chirurgical. C'est là que l'intelligence issue de la photo de 2008 entre en jeu. Stuxnet dormait, et il vérifiait son environnement.
Il cherchait quoi exactement ?
Une combinaison très spécifique. Il s'activait uniquement s'il détectait des automates Siemens S7 315 ou 417.
Ceux de la photo.
Voilà. Reliés à des convertisseurs Vacon NX ou Fararo Paya et opérant exactement entre 807 et 1210 Hz.
Donc s'il ne trouvait pas cette signature exacte, il ne faisait rien du tout.
Rien. Il restait inactif.
Et la méthode de sabotage, c'est génial. Une fois la cible reconnue, le virus modifiait les fréquences sournoisement. Il accélérait les rotors à 1410 Hz.
Créant une pression énorme.
Et puis freinait brusquement à 2 Hz. La machine se déchirait de l'intérieur. Mais le coup de génie absolu, pendant que les machines hurlaient, le code interceptait les données et renvoyait de fausses constantes normales aux opérateurs.
C'est exactement le braquage façon Ocean's Eleven. On envoie une boucle vidéo du couloir vide pendant qu'on dynamite le coffre-fort.
C'est machiavélique.
Et le bilan ?
Dévastateur. Près de 1000 centrifugeuses détruites. Mais psychologiquement, C'était pire.
Comment ça?
Les ingénieurs iraniens voyaient leurs machines exposées alors que leurs écrans disaient que tout allait bien. Ils ont sombré dans la paranoïa. Ils ont cru qu'ils étaient incompétents ou que les pièces étaient mauvaises.
Ils ont blâmé leur propre matériel au lieu d'imaginer un piratage.
C'est ça. Une guerre de l'esprit. Autant que de l'uranium.
Une démonstration pareille, ça a dû créer une onde de choc. Quand les gouvernements ont capté qu'une image pouvait détruire des infrastructures, comment ils ont réagi?
On entre dans le paradoxe de la puissance.
Ouais, le dilemme est cruel pour les États. L'essence de la dissuasion, c'est de montrer sa force. Les défilés, les exercices...
Mais à l'ère de l'OSINT, chaque image est une munition offerte à l'ennemi.
C'est systématique. Prenez la Corée du Nord. Leurs parades militaires ont été scrutées. Les chercheurs ont analysé la tôle qui ondulait sous la lumière, l'absence de certains câblages.
Pour prouver que leurs fameux missiles balistiques n'étaient que des maquettes.
Exactement, des coquilles vides. Et en Ukraine, c'est pire. Un simple selfie d'un soldat russe devant un dépôt de munitions.
Ça donne les coordonnées pour une frappe d'artillerie.
Quelques heures plus tard, le dépôt n'existe plus. C'est géopolitiquement fascinant. C'est une immense partie de poker où tout le monde fait tomber ses cartes par erreur. Est-ce qu'on peut encore faire de la propagande visuelle sans se tirer une balle dans le pied?
C'est là qu'intervient la contre-OSINT.
La parade? Ça ressemble à quoi?
Des mesures draconiennes, déjà. L'OTAN, l'armée chinoise, ils ont banni les smartphones géolocalisés en opération. Ensuite, les salles ultra-sécurisées, les SCF.
Les enceintes étanches aux ondes.
Voilà. Et surtout, l'art de montrer sans révéler, le floutage stratégique.
L'exemple classique, c'est la Situation Room de la Maison-Blanche pendant le raid contre Ben Laden en 2011.
Un chef-d'œuvre de communication, cette photo.
Elle transmet toute l'attention, l'émotion, mais tous les écrans, tous les documents sur la table sont méticuleusement floutés. L'émotion est là, la donnée est effacée.
Le manuel parfait de la photographie gouvernementale. Et il y a aussi la déclassification proactive. Au lieu de cacher... On utilise le secret comme arme rhétorique.
Comme avec la guerre en Ukraine début 2022?
Exactement. Les agences occidentales ont inondé l'espace public d'images satellites montrant les troupes russes.
Pour casser le récit des simples exercices militaires russes en temps réel. Le secret n'était plus un truc à cacher, mais une arme de communication.
Mais bon, alors qu'on essaie de maîtriser chaque pixel, une nouvelle technologie brouille tout. L'intelligence artificielle.
On entre dans la crise de la réalité, là. L'IA, c'est un accélérateur monstrueux pour le SINT, non?
Ah bah oui. Des modèles algorithmiques analysent des pétaoctets d'images satellites en quelques millisecondes. Ils repèrent un hangar camouflé dans le désert, un truc qui prendrait des semaines aux humains.
L'outil de surveillance absolue. Mais c'est aussi le pire ennemi de l'OSINT.
À cause des deepfakes, oui.
Des vidéos, des voix générées par des IA indétectables. L'histoire dans Pixel Zero à Hong Kong en 2024, c'est terrifiant. Un employé transfère 26 millions de dollars suite à un ordre de son directeur en visioconférence.
Le cauchemar, c'est que personne d'autre que lui n'était réel dans l'appel.
Les pirates avaient aspiré des données au SINT public, des interviews, des apparitions télé, pour cloner avec une IA le visage, la voix et les tics des dirigeants de la boîte.
C'est terrifiant. Quand la preuve numérique devient falsifiable à volonté, le contrat de confiance s'effondre. Comme avec Stuxnet ou l'attaque de Colonial Pipeline, la tech va trop vite pour nous.
L'analyste OSINT n'a plus qu'une défense, c'est la vérification croisée obsessionnelle de sources divergentes. Prouver qu'une image est vraie, c'est de l'archéologie complexe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie?
Ça signifie que l'espace numérique est devenu un vrai palais des glaces.
Un palais angoissant de clones numériques. Et c'est là que l'initiative de Logi Media prend tout son sens. Ils ont lancé un fanzine papier.
Ouais, un vrai retour au do-it-yourself.
Sans formatage, avec des ratures, de la poésie, des collages. Au début, je me suis demandé le rapport avec la géopolitique. Mais face à cette exhaustion numérique, créer un objet physique brut... C'est presque un acte de rébellion, non?
Je suis convaincu que c'est lié. L'OSINT, c'est la quête de la vérité factuelle dans un océan de tromperies. Le fanzine de Logi, c'est la même urgence. Face au flux virtuel, on a besoin de matière, d'encre qui tâche, de papier qui a une texture.
Un ancrage incontestable parce que ça ne peut pas être piraté ou généré par une IA.
C'est le besoin viscéral de retourner à ce qui est organiquement humain.
Notre discussion d'aujourd'hui, franchement, elle trace un arc de fou. De la visite de Nathan jusqu'à l'importance philosophique d'un morceau de papier. L'OSINT, c'est le bouclier et l'épée du 21e siècle.
Et le paradoxe de la puissance va s'amplifier. Plus on utilisera d'outils numériques, plus la surface d'attaque sera grande. L'omniprésence visuelle, c'est notre talon d'Achille.
Ce qui m'amène à une réflexion finale pour les esprits curieux. Si l'IA peut générer de fausses preuves et si l'OSINT décortique la moindre anomalie, combien de temps avant que des États ne construisent de gigantesques fausses bases militaires physiques ?
Ah, pour épuiser l'analyse satellite.
Voilà. Des chantiers à plusieurs millions, du vrai béton, de vrais camions, mais qui ne servent à rien. Juste des mirages tangibles pour monopoliser et tromper l'ennemi. La prochaine guerre froide pourrait se jouer dans la création d'infrastructures délibérément absurdes. Gardons un œil critique sur le monde qui nous entoure. La guerre invisible n'a jamais été aussi présente. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du réel.